Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Alors, nous allons inviter Myriam pour le mime.
Walking on the road to Jerusalem, the time had come to sacrifice again. My two small sons, they walked beside me on the road. The reason that they came was to watch the Lamb. Daddy, Daddy, what will we see there? There's so much that we don't understand. So I told them of Moses and Father Abraham. And then I said, dear children, watch the Lamb. There will be so many in Jerusalem today. We must be sure the Lamb doesn't run away. And I told them of Moses and Father Abraham. And then I said, dear children, watch the Lamb. When we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers, no joyful worship songs. I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard the crowd cry out, a part I did not wish to play. Why upon this day were men condemned to die? Why were we standing here where soon they would pass by? I looked and said, even now they come. First one cried for mercy, the people gave him none. The second one was violent, he was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, there's Jesus. I scarce believe my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns upon his brow, running down the cross, falling to the ground. I watched him as he struggled, I watched him as he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell. In that moment, I felt such agony. In that moment, I felt such loss. Until a Roman soldier grabbed my arm and screamed, "You! Carry his cross! tried to resist him. Then his hand reached for his sword. And so I knelt and took the cross from the Lord. I placed it on my shoulder and started down the street. The blood that he'd been shedding was running down my cheek. They led us to Golgotha. They drove nails deep in his feet and hands. And yet upon the cross I heard him pray, Father, forgive them. Oh, never have I seen such love in any other eyes. Into thy hands I commit my spirit, he prayed, and then he died. I stood for what seemed like years. I'd lost all sense of time until I felt two tiny hands holding tight to mine. My children stood there weeping. I heard the oldest say, Father, please forgive us. Blair ran away. Daddy, Daddy, what have we seen here? There's so much that we don't understand. So I took them in my arms, and we turned and faced the cross. Then I said, dear children, watch the Lamb.
Amen. Pour ceux qui n'ont pas compris le chant, c'était la scène de Simon de Cyrène. Et Simon de Cyrène et ses enfants. Et on prenait Simon de Cyrène pour porter la croix de Jésus. Et les enfants avaient une brebis, et la brebis s'est enfouie pendant toute la scène. Et à la fin, Simon de Cyrène a dit aux enfants que voici l'agneau. L'agneau, c'est Christ qui est sur la croix. C'est un résumé assez rapide.
Merci, Jésus.
Merci.
Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour les cœurs que tu touches, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur.
Dans ton nom tout-puissant. Et ceux qui l'aiment peuvent dire un grand amen. Avant de prendre la place, salue quelqu'un à côté. Dis-lui bonjour, je suis content de te voir. C'est vendredi, on va se déjeuner un peu. Christ est roi. Il y a un défi. Si Christ est roi, bien, qui a tué le roi? Qui a tué Jésus? Tel est mon thème d'aujourd'hui, mais avant cela, j'aimerais qu'on retourne dans Marc 15, 21 à 30 avant de pouvoir développer notre sujet de ce soir. Marc 15, 21 à 30, si vous avez votre Bible, vous pouvez aller dans votre Bible, sinon ça sera à l'écran. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre, et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Si c'est possible, juste enlever mon son sur les moniteurs, ça serait apprécié. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant, « Et toi, qui disais que tu pouvais détruire le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Quelle scène! Hein? Jésus, un homme avec l'homme qui a eu le plus d'impact sur la terre, l'homme qui a changé des vies, l'homme qui a relevé des paralytiques, l'homme qui a restauré des foyers, se retrouve devant la population sur une croix. Et cette scène me parle encore aujourd'hui en 2014, parce que si notre maître a été sur la croix, nous aussi, nous allons vivre des moments de souffrance et des moments de croix. Et c'est pour cela que le Vendredi Saint, c'est très important pour nous, enfants de Dieu, parce que même si tu as la croix et même si tout le monde est en train de se moquer de toi, j'aimerais te dire qu'il y a un lieu, il y a une place où est-ce que Dieu va t'emmener vers la résurrection. Et ceux qui le croient peuvent dire amen. Aujourd'hui, nous allons faire une investigation. Nous allons tous devenir des détectives, des Sherlock Holmes. Aller découvrir qui a tué Jésus. Qui a tué Jésus? Ou plutôt, nous allons encore aller rechercher tous les complices de ce meurtre. Et nous allons voir les parallèles qu'il y a pour nous aujourd'hui en 2014. Jésus avait 12 apôtres. 12 apôtres, 12 personnes qui le suivaient. Nous, ici à l'Église Nouvel Espoir, nous avons des membres, des gens qui... je suis arrivé ici vers 5 heures et nous avions des gens qui étaient déjà ici à 5 heures. Pour moi, c'est une bénédiction, puis j'applaudis le Seigneur, parce que je me rappelle du temps où est-ce que j'arrivais et j'étais seul une heure de temps. Alors, quand je vois qu'il y avait déjà une dizaine de personnes, et vraiment, Monica, on a été bénis, quel bon travail, Monica et l'équipe. Vraiment, nous allons frapper de nouveaux sommets cette année. Et ceux qui le croient peuvent dire amen. Ne soyez pas gênés, dites amen, dites quelque chose. Et Jésus avait 12 disciples, André, Barthélemy, Jacques d'Alphée, Jacques de Zébédée, Jean, Judas Iscariote, le plus populaire, hein? Jude, Matthias, Matthieu, Philippe, Pierre, Simon le Zélote, Thomas. Et vous, on connaît tous les 12. Et Jésus se retrouve à la croix et carrément tout le monde s'est enfui. On sait que Jean était là, mais carrément tout le monde est parti. Et nous sommes vendredi, Vendredi Saint, cette journée où est-ce que cette scène est arrivée. Le Vendredi Saint est le vendredi qui précède le dimanche de Pâques. Ça, j'aime Vendredi Saint parce que je sais ce qui va arriver. Jésus va sortir du tombeau. Alors, peut-être que présentement, tu vis des moments de souffrance, mais prophétiquement, je te dis que le Vendredi Saint précède la Pâque de ta vie. Et il est célébré comme le jour où Jésus a été crucifié. Et ces événements sont des événements très importants pour nous, croyants. Pour ça, en tant que pasteur, je vais juste ouvrir une parenthèse, ce n'était pas dans mes notes, il faut que je fasse attention, il faut que je reste dans mes notes, mais juste ouvrir une parenthèse rapidement. Il y a plusieurs personnes qui prennent leurs vacances à Pâques et le jour du Vendredi Saint. C'est bien, mais va à l'église au moins. Où est-ce que tu t'en vas? Parce que c'est très important. C'est capital, c'est plus important que Noël. C'est plus important. La journée où Jésus, le Seigneur, est mort à la croix, c'est plus important que Noël. Sa naissance, c'est super, mais la journée qu'il est mort pour tes péchés, pour les miens, ceux qui le croient peuvent dire amen, 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 amen. Ce n'est pas n'importe quelle mort, la mort par laquelle notre Seigneur est mort. Il est mort d'une mort cruelle, déshonorante. On disait de ceux qui étaient crucifiés qu'ils étaient maudits. Quand ton enfant a été crucifié, ta famille était rejetée, on disait que tu étais maudit. Et la personne qui a eu l'idée de la crucifixion, on pense toujours que c'est les Romains. Non, la crucifixion existe depuis le temps de Babylone. C'est l'épouse de Nimrod. Et Nimrod, qui est ce roi qui a vécu l'inceste dans l'histoire de Nimrod. Il y a une expression, cette semaine, on travaillait sur le baptistère et on a vraiment eu du plaisir avec quelqu'un qui vient ici à l'église de tout faire pour ne pas qu'il y ait de l'eau partout. Et en tout cas, c'est bon, on est content. J'aimerais apprécier la générosité puis peut-être qu'il ne voudra pas, mais de Robert et de Mélanie qui sont cachés quelque part en arrière. Robert, Jason. Moi, je l'appelle toujours Robert, mais Myriam me dit non, c'est pas Robert, c'est Jason. donc, de Jason et de Mélanie pour le beau travail. Vous le réalisez pas, mais on va avoir des baptêmes dimanche. Et Jason, lui, il a été baptisé par le petit tiroir qui est juste en arrière, dans lequel il est entré. J'avais peur qu'il soit coincé là-dedans. Et en tout cas, il a fait du travail et on a vraiment un baptistère qui est fonctionnel. Et il m'a appris l'expression parce que moi, je disais, je fais des recherches. Je parlais de Nimrod et il me dit, tu sais, en anglais, si on te traite de ça, c'est un Nimrod, c'est pas bon. Mais il y a une source de cela. La source, c'est que Nimrod, c'était le premier chasseur. Ça se retrouve dans Genèse. Nimrod, c'est le premier chasseur et il était un homme puissant. C'est le petit-fils de Noé. C'est le premier empereur sur Terre, la première personne à protéger les gens. Ceci dit, il a eu un inceste. Il a été avec sa mère, il a eu un enfant avec sa mère. Et on dit que Nimrod a été tué plus ou moins pour cela, parce que ce n'était pas acceptable et tout ça. Et sa mère, du nom de... Et puis là, je vais regarder mes notes parce que c'est des noms assez complexes. Sémiramis, si vous avez un enfant bientôt, vous pouvez l'appeler Sémiramis. Sémiramis... cette mère du nom de Sémiramis, elle, quand Nimrod est mort, pour se protéger, elle a dit qu'elle était enceinte d'un enfant et que cet enfant était la réincarnation de Nimrod. En tout cas, est-ce une légende ou est-ce une histoire qui a son fond quelque part? Nous savons que dans l'histoire, même dans les histoires mythiques, il y a un fond de vérité. Il y a toujours un fond de vérité. Ceci dit, c'est cette dame qui a créé la mort par crucifixion. Depuis ce temps-là, c'est comme ça qu'on éliminait les gens, parce que tous ceux qui doutaient de cette réalité, de ce mythe que Nimrod s'était réincarné, étaient tués par crucifixion. Et c'est une mort qui a été reconnue pour plusieurs années comme une mort cruelle. Les Babyloniens étaient reconnus comme étant cruels. Quand Babylone prenait votre pays, quand vous étiez en captivité par Babylone, il y avait des choses cruelles qui arrivaient. Et les Romains ont dit, mais quelle bonne idée, on va importer quelque chose. Et aujourd'hui, on importe des iPads, des iPods, mais dans ce temps-là, ils importaient de la crucifixion. Et ils ont importé la crucifixion et notre Seigneur a été à la croix. Tout ça pour dire que Jésus n'est pas mort d'une mort simple. Et même quand tu regardes le film de la Passion de Christ, un film que j'aime regarder, il y a des gens qui vont dire, mais c'est cruel. Mais c'était cruel. Jésus est mort d'une manière déshonorante et cruelle pour tes péchés et pour mes péchés. Et Jésus est devant cette scène dans Marc 15, et dans cette scène, sur le chemin, il y a un homme de Libye, Simon de Cyrène. Cyrène était la capitale de la Libye. Et j'aime ceci parce que, bon, mes origines sont africaines, donc je sais que celui qui a porté la croix du Seigneur est un Africain. Alléluia! Alléluia! Ceux qui aiment Jésus applaudissent! Donc, je suis assuré qu'il y a une place pour moi au ciel. C'est bien ça. Donc, dans Actes 19, 33, on suspecte même que Paul parle des enfants de Simon de Cyrène. On dit « Alors, on fit sortir de la foule Alexandre. » Certains théologiens pensent que cet Alexandre est un des enfants de Simon de Cyrène. Dans Romains 16, 13, on dit « Saluez Rufus ». Peut-être que les enfants de Simon de Cyrène ont grandi et ont accepté le Seigneur. Et c'est quelle bonne nouvelle. Ça veut dire que pour nos enfants, il faut les emmener à l'église. Hein, c'est très bon. Simon de Cyrène était là. Il était à Jérusalem. Ce n'était pas par accident. Parce que tous ceux qui croyaient au Dieu d'Israël, venaient à Jérusalem pour la Pâque. La même chose, on emmène nos enfants, même le Vendredi Saint. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, écoute, ça c'est mon vote. Écoute, moi je dis à mes enfants, quand on va même au cinéma, je dis, écoute, je ne paye pas pour n'importe quel film, parce que donner mon argent pour quelque chose, c'est un vote. Ah, même si vous n'aimez pas, moi je dis amen. Alors, ce qui nous emmène dans la question que Simon de Cyrène a certainement eue ce jour-là. Vous savez, des fois, vous vous approchez de quelqu'un, vous voyez quelqu'un, puis vous pouvez sentir que cette personne est innocente. Vous n'avez pas besoin de connaître des gens, et je suis certain qu'autour de Jésus, il y avait quelque chose. Autour de Jésus, Jésus était un homme différent. Et je suis certain que ce jour-là, Simon de Cyrène s'est posé la question, pourquoi cet homme est avec ces bandits? Pourquoi cet homme s'en va vers cette croix? D'où la question, qui a tué Jésus? Le premier suspect est approché d'une diapo, on le connaît tous. Peut-être qu'il ne ressemblait pas à ça, mais dans le film, il ressemble à cela. C'est Judas Iscariote. Et pour des millénaires, pour depuis des 2000 ans, tout le monde revient à Judas. Et c'est vrai que Judas a trahi le Seigneur. Ceci dit, Judas tout seul ne pouvait pas tuer Jésus. Et même, on voit dans la parole que Judas a eu du remords. Judas est allé se pendre. Pourquoi? Parce qu'il a eu du remords. Il a dit, j'ai donné quelqu'un d'innocent. J'ai trahi quelqu'un d'innocent. Donc, qui a tué notre Seigneur? Ceci m'a poussé à investiguer. La première personne que j'ai trouvée dans mes enquêtes était Caïphe. Caïphe qui était souverain sacrificateur du temps. Et Josephus parle de Caïphe. Et je vais vous donner une bibliographie pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus curieux, qui veulent aller chercher. Josephus dit que premièrement, Caïphe s'appelait Joseph. Et que Caïphe était le beau-fils d'un homme appelé Anne. Pour ceux qui ont vu le film The Godfather, Anne, c'est le parrain. Anne, c'est quelqu'un qui a été pendant à peu près 5 ans lui-même prêtre, le grand prêtre du temple, mais Anne aime le pouvoir. Alors Anne, il est certain, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, j'ai été là 5 ans et le mandat de tous les souverains sacrificateurs était à peu près d'un an. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours une petite révolte, un petit problème. Il fallait être un bon politicien, savoir arranger les zélotes, savoir s'arranger avec les Romains et pouvoir concilier tout le monde. Et on dit que la majeure partie des souverains sacrificateurs faisait juste un an. Caïphe, lui, il a fait 16 ans. Et on dit qu'une des raisons pour lesquelles Caïphe a fait 16 ans, c'est parce que Anne, qui avait été là 5 ans, après lui, il a placé 5 de ses fils. Alors, il y a eu 5 des fils à Caïphe qui ont été eux-mêmes souverains sacrificateurs pour une période d'un an. Et en quelque part, ils avaient développé dans le Sanhédrin une mafia. Et Caïphe, aujourd'hui, il y a un terme en anglais qui on dit d'une personne qui est manipulable, un pantin, on dit « he's a tool ». Caïphe, c'est un pantin. C'est Anne qui agit, c'est Anne qui lui dit quoi faire. Et comment je le sais? Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus a été emmené premièrement chez Anne. Pourtant, on ne jugeait jamais les gens dans une résidence, dans une maison d'un souverain sacrificateur. Et si c'était chez le souverain sacrificateur qu'on devait l'emmener, on devait l'emmener chez Caïphe. Mais la première personne chez qui on a emmené Jésus, c'était Anne. Et Anne est le premier à interroger Jésus. Et ensuite, on emmènera Jésus vers Caïphe. Caïphe était mesquin. On voit la photo suivante, la statue à gauche, c'est Caïphe. Et ici, on a une image du film La Passion. Caïphe avait beaucoup à perdre avec Jésus, parce que Jésus n'était pas bon pour la business. Jésus, il y a Dr. Ellen Bond à la prochaine diapo. Elle a fait des études, elle fait des études d'archéologie, et elle est allée étudier jusqu'à retrouver, à la prochaine diapo, nous avons des ossements qui ont été retrouvés, prochaine diapo, de la petite fille de Caïphe. Et aussi, dans le lieu où est-ce qu'on a retrouvé cela, on a retrouvé à peu près la maison où est-ce qu'était Caïphe. Et si vous regardez la prochaine diapo, c'est une maison assez luxueuse. On dit qu'il y avait carrément des planchers qui ressemblent à nos planchers aujourd'hui de céramique. Ils avaient des bains dans la maison, des bains comme celui-là, mais en meilleur état. On doit dire que ça, c'est... Donc, les souverains sacrificateurs vivaient dans le luxe. L'autre chose, c'est que dans ce temps-là, il y avait un rite derrière lequel les gens devaient prendre des bains. Plusieurs fois, on demande à Jésus, on dit à Jésus, tes disciples ne se lavent pas les mains. Tes disciples ne se lavent pas. Pourquoi? Parce que la purification, toute la purification était autour du bain et de l'eau. Alors, eux, les souverains sacrificateurs, ayant des bains, ils faisaient payer très cher aux gens. On dit que durant la Pâque, il y avait plus de 2 millions de personnes à Jérusalem. Alors, ça fait de l'argent, ça. Et Jésus dit, non, toutes ces choses-là, tu n'as pas besoin de ça pour te purifier. Je suis la purification. Wow! Hey! C'est pas bon pour la business, ça. Un autre défi, c'est que quand Jésus arrive à Jérusalem, le peuple sort et dit, Hosanna, fils de David! Hosanna, fils de David! Et vous savez, les personnes en autorité, les personnes en pouvoir, ils ont du mal de partager leur pouvoir. Et ce jour-là, Caïphe, je pense qu'il a eu une migraine. Il tourne à la maison et dit, je partage mon pouvoir avec cet homme-là de Nazareth. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai un statut. Lui vient d'où? Et Caïphe avait ce défi-là. Et Jésus, encore plus, Jésus, juste pour un peu provoquer Caïphe, qu'est-ce qu'il fait? Il bat les gens dans le temple. Après quelques jours, Jésus dit, bon, Caïphe, il est très content. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chasser les gens dans le temple. Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous avez fait de ce temple une caverne de voleurs. À qui Jésus parlait premièrement? Pas seulement aux vendeurs dans le temple, parce que l'argent s'en allait vers les souverains sacrificateurs. Donc, Caïphe avait toutes les raisons de tuer Jésus. Caïphe représente la religion. La religion. Moi, je dis que l'Église du Nouvel Espoir n'est pas une religion. On est évangélique, oui, mais ce n'est pas les évangéliques qui sauvent. On est évangélique et protestant de tradition, oui, mais ce n'est pas les protestants qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Tout système religieux est dangereux. Et Caïphe, c'est l'exemple concret du système religieux. Quelques instants en arrière, je vais demander qu'on joue juste le premier vidéo qui va nous montrer c'est quoi la différence entre une religion et une relation.
What if I told you Jesus came to abolish religion? What if I told you voting Republican really wasn't his mission? What if I told you Republican doesn't automatically mean Christian, and just because you call some people blind doesn't automatically give you vision? I mean, if religion is so great, why has it started so many wars? Why does it build huge churches but fails to feed the poor? Tell single moms God doesn't love them if they've ever had a divorce, but in the Old Testament, God actually calls religious people whores. Religion might preach grace, but another thing they practice, tend to ridicule God's people, they did it to John the Baptist. They can't fix their problems, and so they just mask it, not realizing religion's like spraying perfume on a casket. See, the problem with religion is it never gets to the core. It's just behavior modification, like a long list of chores. Like, let's dress up the outside, make it look nice and neat. But it's funny, that's what they used to do to mummies while the corpse rots underneath. Now I ain't judging, I'm just saying, quit putting on a fake look. Because there's a problem if people only know that you're a Christian by your Facebook. I mean, in every other aspect of life, you know that logic's unworthy. It's like saying you play for the Lakers just because you bought a jersey. See, this was me too, but no one seemed to be on to me. Acting like a church kid while addicted to pornography. See, on Sunday I'd go to church, but Saturday getting faded, acting if I was simply created to just have sex and get wasted. See, I spent my whole life building this facade of neatness, but now that I know Jesus, I boast in my weakness. Because if grace is water, then the church should be an ocean. It's not a museum for good people, it's a hospital for the broken. Which means I don't have to hide my failure, I don't have to hide my sin. Because it doesn't depend on me, it depends on Him. See, because when I was God's enemy, and certainly not a fan, He looked down and said, I want that man. Which is why Jesus hated religion, and for it He called them fools. Don't you see so much better than just following some rules? Now let me clarify. I love the church, I love the Bible, and yes, I believe in sin. But if Jesus came to your church, would they actually let Him in? See, remember, He was called a glutton and a drunkard by religious men. But the Son of God never supports self-righteousness, not now, not then. Now back to the point, one thing is vital to mention. How Jesus and religion are on opposite spectrums. See, one's the work of God, but one's a man-made invention. See, one is the cure, but the other's the infection. See, because religion says do, Jesus says done. Religion says slave, Jesus says son. Religion puts you in bondage, while Jesus sets you free. Religion makes you blind, but Jesus makes you see. And that's why religion and Jesus are two different clans. Religion is man searching for God. Christianity is God searching for man, which is why salvation is freely mine and forgiveness is my own, not based on my merits, but Jesus' obedience alone. Because he took the crown of thorns and the blood dripped down his face. He took what we all deserve. I guess that's why you call it grace. And while being murdered, he yelled, "Father, forgive them. They know not what they do." Because when he was dangling on that cross, he was thinking of you. And he absorbed all your sin and he buried it in the tomb, which is why I'm kneeling at the cross saying, "Come on, there's room." So for religion, no, I hate it. In fact, I literally resent it. Because when Jesus said, "It is finished," I believe he meant it.
Amen. Amen. Je suis certain que si Caïphe était ici ce soir, il voudrait tuer ce gars-là. Et aujourd'hui, nos églises, et aujourd'hui, il y a des gens encore qui ont le même cœur que Caïphe. On a l'apparence. Caïphe, c'est quelqu'un, quand il parlait devant les gens, c'était quelqu'un de très respecté. C'est quelqu'un qui, certainement, à la synagogue, on disait, oh, vraiment, il y a une parole de vie qui sort de lui. Pourtant, prend Jésus, l'emmène de nuit. Et tout ce qui a été fait dans la cour avec Jésus, tout est illégal. Ceci dit, Caïphe, c'est quelqu'un qui vit pour le standing. C'est quelqu'un qui vit pour ce que les gens voient. Est-ce que j'ai porté une belle veste aujourd'hui pour que les gens voient que je suis saint? Est-ce que mes souliers sont propres aujourd'hui? Est-ce que je parle bien? Tout ce que Caïphe pensait, c'était ce que les gens pensaient de lui. Et Jésus, comme il a été dit dans la vidéo, Jésus, lui, pour lui, toutes ces choses-là étaient éphémères. Parce que Jésus, ce qu'il veut voir, c'est notre liberté. Il veut nous voir être dans la liberté. Alors, la première chose qui a tué Jésus, ou le premier commanditaire de la mort de Jésus, parce que c'est Caïphe qui a dit devant le Sanhédrin, « Mieux vaut qu'une personne meure au lieu que la multitude meure. » Pendant que il ne savait pas que prophétiquement, Dieu utilisait ses plans pour dire quelque chose qui était une vérité prophétique, que Christ allait mourir pour chacun d'entre nous. Et Christ m'a dit de vous dire qu'il y a des gens qui présentement peut-être peuvent parler du mal de vous. Mais de manière prophétique, ces paroles, si vous croyez en Christ, ces paroles vont devenir des paroles de vie pour vous. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce qu'ils auront dit, aucune arme forgée contre vous ne peut subsister. Mais tiens ferme, ne sois pas comme Caïphe, ne suis pas la religion. Parce que si tu suis la religion, tu seras un commanditaire de la mort de Jésus. Et tu resteras un commanditaire de la mort de Jésus. La religion est dangereuse. La religion est dangereuse. Notre deuxième suspect se nomme Ponce Pilate. Ponce Pilate est un fin politicien. En français, on dirait un filou. Ponce Pilate, il vous fait des promesses, mais quand il est voté, il oublie ses promesses. On en connaît les Ponce Pilate, hein? Ponce Pilate vient de Rome. Lui, Ponce Pilate, il est intelligent, il a fait les plus grandes écoles et il s'en va vers les barbares. On dit de Ponce Pilate qu'il n'aimait pas vivre à Jérusalem parce que Jérusalem, c'était trop barbare pour lui. Il vivait à Césarée. Ceci dit, à Pâques, il se retrouva à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Ponce Pilate avait peur qu'il y ait une révolte. Parce que nous savons qu'est-ce qui est arrivé à Pâques. À Pâques, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Alors, qu'est-ce qui arrive à Pâques? Il y a comme un essor. Il y a le peuple croit que Dieu va encore agir parce que le peuple est toujours à l'attente de l'action de Dieu. Et c'est comme ça que nous devrions être Église de Dieu. Quelles que soient les circonstances de nos vies, nous devrions toujours être à l'attente que Christ revienne. Moi, je crois que Christ revient très bientôt. S'il est écrit dans l'Évangile qu'il revient bientôt, je crois que Christ revient bientôt. Il nous faut être dans cette expectative. Alors, Ponce Pilate se retrouvait à Jérusalem, juste pour être certain en tant que gouverneur de la région, que personne n'allait commencer une révolte. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, il y avait la démocratie à Rome. À Rome, tu pouvais te faire renvoyer. Le gouverneur avant Ponce Pilate avait perdu ses fonctions. Et nous verrons plus tard qu'est-ce qui va arriver à Ponce Pilate. Alors, Ponce Pilate doit faire un travail qui va représenter les intérêts de Rome. Ponce Pilate est reconnu comme un homme aussi qui utilisait des moyens brutaux. Vous savez, des fois, on lit le texte en voyant Ponce Pilate, il a lavé ses mains, oh, wow, il avait un bon cœur. Ponce Pilate, l'historien Josephus nous dit que Ponce Pilate a jugé certaines personnes et les a conduits à la mort sans pour autant avoir une cour, sans pour autant les emmener devant un juge où est-ce qu'il y avait des preuves. Et il a juste décidé de manière ponctuelle, tout seul, que ces gens devaient aller mourir. Ponce Pilate a fait des exécutions sommaires, plusieurs exécutions sommaires. Ponce Pilate est un peu comme ce politicien qui pensait même manipuler Christ. Prochaine diapo, c'est ce qu'on a. On a un politicien qui pense avoir inspiré Christ. Ponce Pilate dira à Jésus, quand Jésus lui dit « Je viens au nom de la vérité », il dira « Qu'est-ce que la vérité ?» C'est quoi la vérité? Aujourd'hui, certains de nos politiciens doutent encore de la vérité de la parole de Dieu, doutent encore. Et il est très difficile en 2014 d'avoir un absolu. Mais j'aimerais dire en tant qu'Église, quel que soit ce qui va se passer à l'extérieur, nous croyons que Christ est l'absolu. Ponce Pilate est celui qui utilise Jésus et pense pouvoir utiliser Jésus à ses fins, bien qu'il a douté de l'intérêt des gens qui ont emmené Jésus. Il savait que ces gens voulaient tuer Jésus parce qu'ils n'ont même pas emmené. Quand vous lisez la Bible, la raison pour laquelle Jésus a été condamné dans la maison de Anne, c'est pour blasphème. Mais quand ils arrivent vers Ponce Pilate, ils ne disent pas qu'il a blasphémé parce qu'on ne pouvait pas tuer quelqu'un pour blasphème. Pour le tuer, il fallait dire qu'il s'était proclamé roi. Alors, ils ont dit à Ponce Pilate, il s'est proclamé roi. Ponce Pilate lui pose quelques questions et découvre qu'il n'y a pas grande rébellion dans Jésus. Il aurait pu décider, écoute, on le libère. Ponce Pilate est celui qui ne veut pas trop changer. Et Jésus, c'est bien, je sais qu'il est honnête, mais j'ai la pression de la foule, j'ai la pression de ma femme, j'ai la pression du monde. Pourquoi je vais changer? Moi, je vais être bien avec tout le monde. Hey, rusé, Ponce Pilate, hein? Parce qu'à trois reprises, il a essayé de faire une intervention avec le Sanhédrin, essayé de négocier avec eux, il a vu que non, ce n'est pas possible. Après, il a essayé de négocier avec la foule. Mais avant de négocier avec la foule, qu'est-ce que Ponce Pilate fait? Il dit, fouettons-le un peu, parce que s'il y a un peu de sang, peut-être que la foule, vous savez, la foule, ils vont peut-être dire, écoute, relâchons-le. Et quand ils voient que la foule est montée, et quand ils voient que la foule est travaillée, et sachez-le, en Israël, il y avait à peu près juste 6 000 prêtres, 6 000 personnes autour des prêtres du Sanhédrin, et ces 6 000 personnes avaient pas mal d'influence, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos sociétés, l'influence, il y a un groupe de personnes qui a cette influence, et ces personnes nous donnent la pensée, ces personnes nous enseignent. Vous savez, quand j'étais enfant, on nous disait que la Terre existait depuis 1 million d'années. Aujourd'hui, c'est depuis 1 billion d'années, et dans 10 ans, ça va être depuis 1 milliard d'années, et personne ne se pose de questions, parce que si tu poses une question, on dit « Hey, t'es pas trop intelligent ». Moi, j'aimerais te dire que quel que soit ce que le monde dit, c'est Christ qui a créé la Terre. Quel que soit ce qu'ils disent, parce qu'un jour, tout œil le verra, tout genou fléchira. Comment il a fait, je ne le sais pas. Je ne veux pas être prétentieux ici, je ne sais pas comment il a fait. Mais ce que je sais, c'est que ma Bible me dit qu'au commencement, Dieu créa. Et Ponce Pilate est de ceux qui suivaient la foule. Il dit, non, écoute, je ne veux pas perdre mon travail. Je ne veux pas perdre mon statut. Pourquoi je vais perdre mon statut? Pour ce Jésus? Moi, je vais perdre mon statut pour ce Jésus, pour proclamer Jésus. Non. J'aurai d'autres opportunités. La Bible nous dit que même sa femme lui a dit, « J'ai pas dormi toute la nuit. » Ça, c'est pour les hommes. Hein? Quand ta femme n'a pas dormi toute la nuit, il y a une raison. Pas dormi la nuit. Écoute, je veux dormir. Laisse-le partir. Et Ponce Pilate trouve un plan machiavélique. Où est-ce qu'il emmène Barabbas, il emmène Jésus et Satan que les gens vont dire « Jésus ». À sa surprise, le filou d'Anne et de Caïphe avait déjà préparé la foule. Ils avaient certainement corrompu des gens là-dedans. Ils avaient emmené des gens qui eux, avaient pour cœur de tuer Jésus déjà. Et c'est Barabbas qui est libéré. Nous savons qu'est-ce qui arrive. Ponce Pilate se lave les mains. Et Ponce Pilate représente ceux qui viennent à Christ pour qu'est-ce que Christ peut leur donner. Et on va voir à la vidéo dans quelques instants, attendez encore, dans quelques instants, on va voir la prochaine vidéo. C'est quoi un chrétien? Moi, j'appelle ça un chrétien qui va à une machine distributrice. Vous savez, quand tu vas dans une machine distributrice, si tu veux manger un Snicker, tu vas manger un chocolat Snicker. Si tu veux manger un paquet de chips, tu vas manger des chips. Il y a des gens qui viennent à Jésus comme ça. Tu viens à Jésus, mais c'est un combo. Ce que tu veux, c'est le numéro 3 de McDo. Mais tu veux ça avec les frites de Wendy's. Et si tu n'as pas ça, tu n'es pas content. Tu sors de l'église. Pasteur, les messages, ce n'est pas comme je veux. Bien, on va voir la vidéo. Merci aux techniciens juste de passer la vidéo.
Let's see. What looks good? What am I in the mood for? Some wisdom looks nice. I could really use that. Strength is good too. Might as well take some of that. I wonder if they have any mercy here. Good. I'll take a bit of that as well. I think I'll pass on that. Ew. No.
Yes, please.
Well, who doesn't want some more of that?
Yeah, I definitely could use some of those. And to finish, boom. You know what? All right. Okay, we'll make it work. We'll do it today. We'll make it work.
Jésus n'est pas une distributrice. Mais pour plusieurs d'entre nous, Jésus est devenu une distributrice. Peut-être que vous n'allez pas l'avouer, mais vous venez juste à Jésus quand vous avez besoin de quelque chose. Et Jésus me dit de vous dire, Église de Dieu, ne soyez pas comme Ponce Pilate. Ponce Pilate voyait qu'est-ce qu'il peut gagner. C'est un politicien. Un politicien voit qu'est-ce qu'il peut gagner. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va marcher pour moi? Si je peux être honnête aujourd'hui, si ça me rapporte d'être honnête aujourd'hui, j'y vais. Si je dois être fidèle à mon époux aujourd'hui, ça me rapporte quelque chose, je vais être fidèle. Si la vérité me rapporte quelque chose aujourd'hui, je vais le faire. Et Jésus, le message de Jésus au travers de l'action de Ponce Pilate, il a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Aucun pouvoir ne te serait donné si ça ne serait de mon Père. En d'autres mots, tu peux faire le fanfaron dans ta vie, mais un jour tu vas répondre à quelqu'un. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ici, j'aimerais vraiment souligner ce fait parce qu'il y a, je crois que dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, Dieu va purifier son Église. Dieu n'appelle pas des gens qui sont ici juste pour, OK, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qu'il y a à l'Église? Est-ce qu'il y a les lumières que je veux? Est-ce qu'il y a l'ami que je veux? Est-ce qu'il y a le groupe social que je veux? Dieu appelle une Église qui se lève. Dieu appelle une Église, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la personne qui est là ou qui n'est pas là, Jésus est là. Dieu appelle des gens qui vont dire, écoute, pasteur, c'est pas la faute de ton message, c'est la faute de mes genoux, je ne prie pas assez. Pasteur, c'est pas à cause de tes conseils. Pasteur, tu n'es pas là pour me changer, Christ est là pour me changer. Nous ne sommes pas appelés, Église Nouvel Espoir, à être une église de codépendants. Une église où est-ce que tout le monde vient, puis bientôt je vais avoir le signe, on est en rénovation, devant ma porte, avant de venir me voir, va voir Jésus. Va voir Jésus. Appelle Jésus. Je ne suis pas la vérité, le chemin et la vie. Je dis, si chacun des enfants de Dieu réalise que nous devons premièrement aller voir Jésus, l'Église serait l'affaire la plus fonctionnelle et la plus belle qu'on peut s'imaginer. Et je crois qu'en 2014, l'Église Nouvel Espoir est appelée et va répondre à l'appel d'être comme ce que Jésus a voulu. D'être sur les genoux, de prier, de demander, de relâcher, d'oublier nos intérêts pour les intérêts de Jésus. D'avoir le cœur de Jésus. Ponce Pilate, c'est pas ça. Ponce Pilate, et Ponce Pilate finira de manière triste. Ponce Pilate va être viré. On va le renvoyer. On dit que Josephus même dira que Ponce Pilate, il semblerait s'est suicidé. Tu travailles pour tes intérêts. Tu peux avoir les millions du monde. Mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, c'est une chanson populaire en France. Hein? On dit « l'argent fait le bonheur ». Pas vrai, ça. Je prêche pas la théologie de la pauvreté. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un lieu, quelles que soient les circonstances de ta vie, Jésus est puissant. Il y a un lieu où, quel que soit ce que tu as dans ton compte de banque, quel que soit ce qui arrive dans ton corps, tu vas, tu rencontres le roi des rois et tout, tout devient nouveau. Ta circonstance peut changer. Et ce n'est pas en prostituant ton corps, ce n'est pas en prostituant tes pensées, ce n'est pas en vendant peut-être que tu vas dire, okay, je vais juste relâcher ça, juste pour aujourd'hui. Et je dis ça pour une dame qui est ici ce soir. Tu sais, tu t'en vas dans un club, tu dis, il y a longtemps que je cherchais de retrouver l'homme de ma vie. Tu vas au club, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas longtemps, tout le monde en parle, il y a une journaliste qui a été, elle disait dimanche passé, de temps à autre, je regarde que tout le monde en parle pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la société. Puis elle disait la chose suivante, elle a été dans plusieurs clubs à Montréal, et dans tous les clubs, elle draguait les hommes. Elle draguait juste les hommes mariés. Et tous les hommes mariés qu'elle draguait dans les clubs voulaient aller avoir de l'intimité avec. Alors, il y a quelqu'un autour de la table qui dit, « Essaye d'aller dans une église. » Peut-être que tu auras moins de résultats. Je te dis que si elle était venue ici à l'Église Nouvel Espoir, elle n'aurait pas eu beaucoup de résultats. Parce que nos chrétiens sont fervents et tout ça. Et j'aimerais te dire, toi, la dame qui est là, arrête ça. Arrête ça. Les hommes vont te respecter de la manière que toi, tu te respectes. Et moi, je dis toujours à ma fille, tu es une princesse. Je dis à mes garçons, tu tapes ta petite sœur, tu as un grand problème avec moi. Pourquoi? Parce qu'on veut lui montrer, très jeune, comment on traite une fille? Ma fille, c'est ma princesse. Je vous garantis, si votre garçon a un œil sur ma fille, il va passer un test de la CIA. C'est certain! Je vais m'asseoir avec lui, je vais pendule à l'heure. J'ai une batte de baseball quelque part. J'ai tout ça. C'est pas la police que je vais appeler, c'est moi-même. Je m'en occupe. Pourquoi? Parce que j'aime ma fille. Et de la même manière que j'aime ma fille, Christ aime son Église. Et Christ veut nous purifier. Christ veut nous sanctifier. Et en tant qu'Église, nous devons avoir le cœur de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas rencontrer des gens? Non. Ça veut dire qu'on va être juste renfermé, qu'on ne va pas avoir du plaisir. Aujourd'hui, j'ai pas mal de plaisir avec la louange. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai même dansé. Waouh! Mais c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être créatifs. Nous devons avoir des moments où est-ce que, oui, peut-être en tant qu'enfant de Dieu, on peut se rencontrer pour jouer ensemble, pour avoir, cet été, on va avoir des temps où est-ce qu'on va louer certains équipements afin que nos enfants et tout ça puissent s'amuser ici, mais que les familles puissent avoir des temps, des pique-niques ensemble. On veut créer une communauté, une vraie communauté. Pourquoi on le fait? Parce qu'on sait qu'il faut un lieu, il faut un environnement pour que le peuple grandisse. Et ça, c'est le défi qu'avait Pilate. Pilate, lui, était dans un mauvais environnement. Pilate était dans un environnement corrompu, dans un environnement dans lequel tu dois trahir pour avoir une promotion. Certains d'entre vous, je dis ceci, puis vous voyez quelqu'un. Vous dites, voyez quelqu'un, lui, là, il est toujours dans le bureau du boss. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et il a des promotions, mais j'aimerais te dire, quel que soit ce qu'il fait, ne fait pas la même chose. Ne fait pas la même chose. Daniel n'a pas fait cela, mais il était le bras droit du roi. Amen. Joseph n'a pas fait cela, il a eu la bague du pharaon. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Blaguez pas avec Jésus, hein? C'est pas n'importe qui. avec Jésus. Vous savez, des fois, il y a des mouvements qui font des affaires bizarres et tout ça. Il y a toujours eu ça dans tous les temps. Hein, on va commencer à prendre n'importe qui. Puis je le dis ici parce que moi, des fois, ça m'insulte parce que c'est pas Jésus. Avec Jésus, je voyais il n'y a pas longtemps, il y avait une réunion quelque part, et on invitait les gens pour être guéris. Et dans ces prières de guérison, il y avait une madame qui avait une chaise roulante. Et le monsieur passait la madame avec la chaise roulante. Il ne regardait même pas la madame avec la chaise roulante, puis il allait chez tout le monde, chacune des autres personnes. Et elle dit, oh, voilà, est-ce que ton pied est assez gros? Et tout le monde dans la salle, il n'y a personne, vous savez, il faut quand même avoir du discernement. Personne dans la salle qui met son cerveau. C'est comme s'ils ont laissé leur cerveau à l'extérieur de l'église. Et je le dis parce que le peuple de Dieu, on doit être éduqué à ces choses-là. Et cette personne arrive et on garde les chaussures sur les pieds des gens et on leur dit, ah, ben, tes jambes vont pousser. Ben, si les jambes poussent, ça veut dire que la chaussure va changer aussi de grosseur. Là. Comme, soyons sérieux, soyons cohérents. C'est pas pour ça que Jésus est mort à la croix. Et moi, je crois que Jésus guérit. Je crois que Jésus change des vies. Je crois que Jésus est capable de guérir n'importe quel cancer. Il y a des gens qui viennent ici, Jésus a guéri leur cancer. Jésus a guéri. Le docteur a dit, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Nous avons vécu une circonstance nous-mêmes dans la famille où est-ce qu'on a prié, oui, on a eu des temps extrêmement difficiles, on va voir le médecin dit, je ne sais pas, il y a ceci qui peut-être paraît qu'il y a un défi et tout ça avec un de nos enfants, mais je vais te dire quoi, l'enfant est en santé. Ça, c'est Jésus. Et moi, quand le docteur me dit que ça va bien, là, je suis à genoux, je sors de l'hôpital, Chio, on dit, mais qu'est-ce qui arrive à ce gars-là? Pourquoi il est à genoux devant Chio? Ça, c'est un miracle. Et c'est ça qu'on veut voir. Parce que Jésus est puissant. Jésus est puissant. Ce n'est pas de la blague. On n'est pas ici pour prêcher de la blague. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Le troisième commanditaire, c'est la foule. La foule est très dangereuse. La foule, vous savez, quand on suit une foule, pour certains d'entre nous, moi, j'aimais beaucoup le soccer. Dans mon pays, il y a beaucoup de fans de soccer. Vous voyez, j'étais un peu comme un de ces gars-là, très, très, très joyeux. Et quand je regardais, quand on s'est mariés au début, ma femme me disait, « Mais qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi! » Des fois, c'était la nuit parce que je regardais la Coupe du Monde, puis des fois, la Coupe du Monde est dans un pays lointain, à 3 heures du matin, elle entend, « Waouh! » Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi! Calme les nerfs! Je veux dormir, demain je travaille. Tu ne comprends pas? Grosse larme seule en intercession pour mon équipe. Et une fois, notre équipe perdait 3-0. Et moi et mon frère, on était à la maison, notre équipe perdait 3-0. Et c'est l'équipe nationale. Comme mes parents sont originaires, on est originaire du Zaïre. Et aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo, bien que le seul nom c'est juste le nom qui est démocratique. République démocratique du Congo. Le restant n'est pas démocratique. C'est juste le nom. Notre nom est cool. République démocratique du Congo. Et on perdait 3-0. Vous savez, en République démocratique du Congo, il y a eu plus de 6 millions de morts depuis 1996. C'est un pays qui a un scandale géologique, mais il y a beaucoup de défis. Alors, l'équipe de soccer, c'est l'espoir de la nation. Quand on gagne un match de soccer, tout le monde est heureux. Et on perdait 3-0, il est resté à peine 5 minutes, si je me rappelle bien. Et à la fin, on a gagné. Et il y avait un joueur dans ce temps-là qui s'appelait Emeka Mamale. Et lui, il a marqué 4 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Ah, quelle joie! Et on s'est retrouvés à l'extérieur, moi et mon frère, à crier « Oh! Yeah! » avec la foule. « Yeah! » Tu ne connais même pas les gens. Oh! Yeah! Alléluia! Tout le monde devient des charismatiques. On a marché. On s'est retrouvés à peu près une heure de chez nous. Là, on a réalisé qu'on a fait tout ça à pied. Dans le plaisir avec la foule, tu vas faire des choses incroyables. Et après une heure, il fallait retourner à la maison. Puis moi, bon, chez moi, quand j'étais enfant, il y avait ce qu'on appelle des heures où est-ce qu'il fallait retourner à la maison. Si tu retournais après, là, c'était certain, là, tu avais une punition. Donc, il y avait une heure et là, on marchait vite hein, parce que nous, quand papa était à la maison, tout le monde devait être à la maison. Et on marchait rapidement, on est arrivé en retard, mais on a dit, papa, on a gagné! Papa! Mais papa, on a gagné! Je ne vous dirai pas qu'est-ce qui est arrivé. Ceci dit, la foule est dangereuse. Et Jésus savait cela. Jésus ne s'est jamais laissé manipuler par la foule. Jésus, à plusieurs reprises, Jésus fait des miracles et tout ça, et la foule l'appelle, on dit, la foule veut faire de lui un roi. Jésus dit non, c'est le temps d'aller me reposer. C'est le temps d'aller prendre des vacances. La foule le suit, Jésus dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Ah, tout à coup, oh, hey, on ne veut pas le suivre, lui. Jésus, à chaque fois, Jésus cherchait la sincérité. Il ne cherchait pas la masse, mais il cherchait la sincérité. Et dans la prochaine diapo, nous allons voir quelque chose qui est arrivé en Égypte. Quand il y a eu le printemps arabe, quand il y a eu cette masse qui s'est levée, des belles choses sont arrivées, mais dans la masse, on a inséré des personnes qui ont fait plusieurs genres de méfaits auprès de personnes, et c'est un peu pour montrer qu'est-ce qui arrive dans la foule. Merci pour la vidéo.
Les femmes qui participent aux manifestations en Égypte sont de plus en plus en danger. C'est ce que constatent plusieurs ONG qui ont décidé de s'organiser pour les protéger. Les agressions sexuelles et les viols sont en effet devenues monnaie courante, particulièrement près de la place Tahrir, symbole de la révolution du Nil au Caire. Comme on le voit sur cette vidéo amateur, les victimes sont harcelées par des individus qui profitent de la confusion au milieu de la foule. Selon l'opposition égyptienne, ces agresseurs seraient payés par le pouvoir pour terroriser les femmes afin qu'elles n'osent plus sortir et manifester dans la rue. Durant les deux derniers mois, témoigne cette Égyptienne, nous avons subi de très graves attaques pendant les protestations. Alors notre objectif maintenant est d'essayer d'empêcher les viols avant qu'ils n'aient lieu. Les femmes, dit cette dame, représentent la moitié de la société égyptienne et il y a de la discrimination envers elles. Nous devons donc nous battre. Désormais, des membres d'ONG sont sur le qui-vive pour surveiller tout mouvement suspect pendant les manifestations en Égypte. En une semaine, pas moins d'une vingtaine de viols ont été recensés.
Alors, si on peut imaginer qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus était devant Pilate. Très souvent, on dit que la foule était toute contre Jésus. Moi, je crois qu'il y avait certaines personnes qui avaient été insérées. Ce n'est pas tout le monde qui était pour que Jésus était là à dire que Jésus allait mourir. Certainement, il y a quelqu'un qui a dit non, et puis il a eu un coup. Ah oh, oui! Et on sait qu'il vivait dans les temps où est-ce que il y avait une armée du temple. Il y avait des gens qui travaillaient pour le temple. Et Jésus m'a dit que son peuple doit faire attention à la foule. Il doit faire attention. Il y a une réunion à telle place. Ah oui, il y a tel groupe qui fait... C'est bien. Et Dieu agit. Et la première église est une église d'une multitude. Nous sommes dans une famille d'églises qui croit à la croissance. Ceci dit, des fois, la masse est dans le péché. Alors, il nous faut vraiment avoir un cœur et avoir des yeux ouverts sur Christ lui-même, au-delà de la foule. J'arrive à la conclusion avec notre quatrième suspect qui s'appelle Hérode. Hérode, lui, c'est le plaisir. Il aime le plaisir de la vie. La première chose qu'il dit à Jésus quand il le voit, c'est « Jésus, fais-moi un miracle. Fais-moi quelque chose. » Peut-être tu viens à l'église, tu dis « Mais c'est quand la dernière fois j'ai vu quelque chose de spectaculaire. Pourquoi que le pasteur ne délivrerait pas quelqu'un aujourd'hui? J'aimerais voir quelque chose. » Jésus, si tu me fais voir, là je vais croire. Ça c'est Hérode. Il aime le plaisir. Il est toujours dans le plaisir. D'ailleurs, même quand Jésus arrive, il est en train de s'amuser. C'est quelqu'un qui, lui, dans sa cour, il sait qui il est, mais il ne sait pas où il va. Les gens qui sont dans le plaisir, ils savent qui ils sont, mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Oh, le plaisir. Oh, hier on s'est tellement bien amusé. Oui, mais demain, tu travailles. Oh oui. Tu as des enfants. Ils ne sont pas connectés à la responsabilité. Hérode est le roi. Lui était celui qui devait avoir le plus d'informations sur Jésus. S'il y a quelqu'un qui pouvait sauver Jésus, c'est vraiment Hérode. Mais vous savez quoi? Hérode est distrait par le plaisir. Alors, Dieu m'a dit de dire, plusieurs d'entre nous, on est père ici. Tu es père, tu es à la maison, tu es mari. sais-tu, Dieu t'a placé chez toi comme le roi, chez toi à la maison, comme son représentant. Et Dieu veut faire des œuvres au travers de toi, dans ta famille. Mais est-ce que tu es distrait dans le plaisir? Tu sais, le plaisir, celui qui aime le plaisir aime le mot « je mérite ». Moi, je mérite, juste aujourd'hui, je mérite un petit Subway. Hey, je mérite une sandwich. Ce n'est pas des grosses choses, hein? Parce que, vous savez, si on veut travailler sur nos finances, là, je vois des yeux dans le noir qui... Pasteur, moi, je mérite. Je mérite mon golf. Je mérite, tu mérites rien. Je veux dire, tu mérites rien. Parce que celui qui méritait tout est mort pour toi. Si lui avait dit « je mérite », il serait arrêté à Gethsémani. Et Christ m'a dit de dire ce soir, peuple de Dieu, ne soyons pas comme Hérode. Ne soyons pas comme Hérode. On raconte cette histoire sur Albert Einstein, qu'un jour, il a pris un train. Et quand il a pris ce train, il devait avoir son ticket de train. Et là, quand le vérificateur passait dans le train, il demandait à tout le monde, « Est-ce que je peux voir vos tickets de train et tout ça? » Et Albert Einstein cherchait. Il cherchait partout au sol et tout ça. Et Albert Einstein, quand le vérificateur l'a dit, « Ah, docteur Einstein, oh, c'est vous. » Il dit, « Oh, vous n'avez pas votre ticket. C'est pas grave. C'est vous, je vous connais et il n'y a pas de problème. » Et le vérificateur a continué, mais M. Albert Einstein continue à chercher partout. Il regardait partout et finalement, le vérificateur est venu et dit, « Écoute, ça ne sert à rien là, c'est correct. » Il dit, « Je sais que c'est correct, je sais qui je suis, mais je ne sais pas où je vais. » Parce qu'il a perdu son ticket. Dans son ticket, c'était écrit où est-ce qu'il allait. Plusieurs croyants devraient faire comme Albert Einstein. Ils devraient chercher où est-ce qu'ils vont. Ils savent que Christ a sauvé, ils savent que Christ a été à la croix. Ils croient au salut, mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils vivent tous les jours parce qu'ils veulent aller accidentellement au ciel. Et j'aimerais te dire qu'aller au ciel n'est pas un accident. Si Christ est en toi, tu vas avoir une assurance de ton salut. Tu as besoin de l'assurance du salut. Alors, il est temps que tu cherches, que tu commences à chercher pour ton ticket. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quelles sont les choses qui te dérangent? Arrête le plaisir parce que le plaisir est une distraction. Si le diable ne t'a pas par le pouvoir, si le diable ne t'a pas par la religion, le diable va aller te chercher par le plaisir. Ah tiens, sois actif. Oh, ça ne sert à rien. Et profite de la vie. Profite. J'aimerais te dire quelque chose, ce n'est pas biblique, profite de la vie. Parce que ceci n'est pas la vie. La vie dont la parole de Dieu parle, c'est la vie en abondance, c'est le Zoé, la vie éternelle. Et cette vie éternelle se retrouve en Christ. Alors, tu veux profiter de la vie, c'est bien pour toi. Moi, je sais que je vais aller en Australie, en Chine, je vais aller dans tous ces pays. Pourquoi? Parce que Dieu va recréer la terre. Alors, même si je n'y vais pas tout de suite et que maintenant je me discipline, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voyager. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ceci dit, si je me discipline pour ne pas faire ces choses-là, certaines de ces choses, afin de me donner pour Christ, un jour, qui sait, Dieu va dire, « Je t'établis roi d'Australie. » Alléluia! Alléluia! Je vais pouvoir voir les kangourous comme je veux. Mais très souvent, on veut s'attacher à ce qui est éphémère. Mais de Dieu, tout de suite. Regarde, c'est toujours eux qui sont heureux. C'est toujours eux qui ont... Hey, Paul, un érudit, un génie. Paul avait tout le standing, toute la vie. Paul a tout abandonné pour Christ. Promotion, prison. Tu passes des meilleurs quartiers. Vous avez vu les maisons des souverains sacrificateurs? C'est probablement là où Paul vivait. Passer des meilleurs quartiers à finir en prison. Moïse qui était dans la maison du Pharaon. Moïse, tout ce qu'il avait à faire, c'est rester silencieux. Tout ce qu'il avait à faire. Bon, certainement dans la maison du Pharaon, connaissant les chefs d'État africains, on le nourrissait. Il se levait le matin, puis il mangeait, on l'habillait. Hein, pour ceux qui ont vu Astérix et Cléopâtre, il se lavait dans du lait. Il avait la belle vie. Mais la Bible dit qu'il a vu tout ça, toutes ces choses comme éphémères. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose de plus grand, une destinée plus grande. C'est pas juste la sortie de l'Égypte, il a vu l'éternité. L'éternité. Moïse fait partie du conseil de Dieu. Quand Jésus devait aller à la croix, Moïse était là et Élie. C'est une belle promotion. Hey, moi, j'aimerais ça rencontrer Jésus puis avoir une réunion avec Jésus. Rencontrer Jésus, on sait qu'on le rencontre dans la prière et tout ça, mais face à face, la Bible dit que aux autres hommes, Dieu discute. Mais avec Moïse, mon ami, je lui parle face à face. Hey, ça, c'est bien, hein? C'est une belle promotion. Petite promotion, mais moi, je la prendrais. Avant de prendre une job, je prendrais le fait de parler au Créateur de l'univers. Et le cœur de Dieu, au-delà de toutes les circonstances, de tous les plaisirs qu'on a à avoir, puis aujourd'hui, c'est très pertinent ce que je suis en train de dire par rapport au plaisir, parce qu'on vit dans Edom, plaisir, partout, images, iPod, iPad, ah, bar, prochain McDo, prochaine affaire, tout. Mes enfants, mon fils, j'ai acheté une machine. 2-3 mois après, la nouvelle machine est sortie. « Papa, la mienne est plus bonne. »« Non! Oh, Jésus, aide-moi! » Et là, je réalise, j'ai dit à mon fils, quand tu auras un enfant, tu comprendras. Je te donne une prophétie certaine. Moi, je suis un père qui suis assez stressé. Hein? Alors, mon fils, je lui achète des souliers une fois aux 2 semaines. C'est comme ça que je le sens, parce qu'à chaque fois, ça revient. « Hé, papa, t'as vu le nouveau trou? » Comment t'as fait ça? Seigneur, Père éternel, fais quelque chose. Et là, je suis rendu dans le magasin de souliers. Ils me disent, mais pourquoi tu tapes le soulier? Je dis, tu connais pas la personne qui les porte. Chut! Je suis en train de tester ça. Et là, je crois, j'ai la foi que ce soulier va tenir. Et j'arrive, je dis à mon fils, ne va pas avec les plaisirs de la vie. Après 2-3 semaines, papa, t'as vu le nouveau trou? Et ce que je veux vous apprendre là-dedans, c'est que dans la vie, au-delà de toutes les choses éphémères, ce que Dieu veut faire, il veut vraiment aller dans la profondeur. Et si on est toujours distrait par ce qui est éphémère, même dans mon cas, moi, si je suis tout le temps distrait par rapport au fait, écoute, j'ai un enfant, il brise ses souliers, c'est pas plus grave que ça. Ben, brise-les pas. Ceci dit, ce qui est important, c'est la relation que nous avons ensemble. Et c'est ça qui est important. Le cinquième complice, et c'est par là que je vais conclure, c'est Jésus lui-même. Jésus pouvait quitter Jérusalem. Jésus savait tout. Jésus, on sait que quand il est arrivé, et il savait qu'il était en danger, parce qu'à plusieurs reprises, Jésus n'est pas resté à Jérusalem. Pourquoi? Il a dit, mon temps n'est pas encore venu. Il a dit à ses frères, vous, votre temps, c'est n'importe quand. Mais moi, j'ai un temps précis. Et Jésus est resté pour une raison. Jésus a provoqué, comme j'ai dit au départ, pour une raison. Dans la prochaine diapo, on voit comment Jésus était armé d'un fouet et Jésus a donné la discipline aux gens dans le temple. Et très souvent, on voit Jésus comme quelqu'un qui est tout juste gentil. « Oh, je vous aime. » Non, mais ce jour-là, là, les gens qui l'ont vu au temple, ce n'était pas ça. Et Jésus a provoqué tous ces religieux, provoquer tous ces gens qui aimaient le plaisir, provoquer Jésus. Jésus dérange. Et encore aujourd'hui, 2000 ans après, j'aimerais te dire que Jésus dérange. Quelqu'un, un prédicateur, on parlait ensemble, on dit, waouh, l'Église, c'est un miracle. On invite des gens à venir. On leur parle de leurs péchés. On leur demande de donner l'argent. On parle de dîmes et les offrandes. On leur demande de servir. Et là, ils servent gratuitement. Et on dit, Dieu les bénit. Alléluia! C'est un miracle! Juste le fait que vous revenez là, ça doit vous prouver que Dieu existe. Et Jésus est là devant tout ce standing et Jésus dérange. Et qu'est-ce qui arrive à Jésus? C'est comme si toute la roue, tout ce qu'il avait planifié se met en place. Jésus dira même dans le jardin de Gethsémani, quand Pierre prend son épée, il dit, « Pourquoi tu prends l'épée? Simon, si j'appelle mon père, tu ne penses pas qu'il va m'envoyer une douzaine d'anges? » Et ils vont tous me délivrer. Jésus est là. Et c'est comme si Jésus, moi, je pense, le plus grand travail de Jésus durant ce chemin, durant ce vendredi saint, c'est de contenir l'armée. Je vois Michaël en train de dire, écoute, moi, je veux l'éplucher. Puis je vois Jésus dire, non. Je vois Jésus en train de contenir la puissance. Je vois la puissance du ciel être contenue pour notre délivrance. Et tout le long, Jésus savait. Matthieu 20, 28 le résume bien. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon à plusieurs. Ce soir, je ne sais pas comment tu es arrivé ici. Peut-être tu es un croyant depuis plusieurs années. Peut-être tu es quelqu'un qui tu veux renouveler. Tu veux faire quelque chose de nouveau avec le Christ. Non seulement au niveau de ta foi, c'est bien d'accepter Jésus, mais tu dis, je veux voir quelque chose de différent dans la région. Je vois une place pour moi. J'aimerais être un homme d'impact. Je vois une maison, je vois un lieu d'adoration. Je me sens appelé. J'aimerais que quand tu vas incliner ta tête et quand on va prier ensemble, j'aimerais que tu vois ce que Dieu t'appelle de faire. Afin, tu viendras me voir, on va discuter ensemble, on va parler ensemble. Vraiment, j'aimerais t'appeler aujourd'hui, parce qu'il y a un feu en toi. Un feu en toi que Dieu seul éveille. Peut-être que si tu es ici ce soir et tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Et aujourd'hui, tu veux prendre la décision de le suivre. Aujourd'hui, tu dis, écoute, moi, même si ta famille, peut-être ta famille même est croyante, mais tu dis, moi, aujourd'hui, je veux prendre la décision de suivre Jésus. Moi, aujourd'hui, là, Jésus, j'ai peut-être entendu parler d'un Jésus, mais maintenant, mon œil le voit. Maintenant, je comprends. Je t'invite aujourd'hui même, à prendre la décision. N'attends pas. Moi, je crois fermement qu'on vit dans les derniers temps. Je crois qu'on est proche. Je crois que l'heure vient où les adorateurs, ceux qui recherchent vraiment le Père, doivent le chercher en esprit, en vérité. Je vais nous demander d'incliner nos têtes. Et tu sais où tu te trouves. Tu sais si tu te trouves dans un lieu où est-ce que tu dois renouveler ton engagement. Où est-ce que tu as vu, écoute, moi j'aime le plaisir. Moi j'aime la politique. Moi j'aime le pouvoir. Maintenant je veux aimer Jésus. Moi j'aime la foule. Maintenant je veux aimer Jésus. Peut-être que présentement, tu vois que tu es dans la seconde classe, qui est, j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai eu des expériences par-ci, par-là, mais cette fois-ci, je veux me caser. Je veux m'enraciner dans la parole, je veux grandir. C'est vendredi saint. C'est la meilleure journée pour faire une décision pareille. Parce que vendredi saint, Christ est allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, va jusqu'au bout. Peut-être tu es dans la troisième catégorie. Est-ce que tu dis, moi, je ne connaissais pas Jésus. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'aimerais faire un pas de foi. Je ne vois pas tout. J'aimerais faire un pas de foi. Père Céleste, tu entends le cœur de tes enfants. Ce soir, par ta main toute puissante, je demande d'éveiller le feu qui est dans chacun de ses cœurs, Seigneur, le feu que seul le Saint-Esprit donne, que seul l'Esprit de vérité donne. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Devant Anne et Caïphe, tu n'as pas donné de réponse. Tu étais calme. Tu les regardais droit dans les yeux. Et tu savais que tu étais au contrôle. Et Seigneur, quelles que soient les circonstances de la vie de ceux qui sont ici ce soir, tu veux te manifester. Tu veux leur montrer que dans leur vie, tu es au contrôle. Seigneur, révèle-toi à tes enfants. Touche ton peuple encore une fois. Rends ton peuple digne de cet appel. Dans cette région, Seigneur Jésus, donne un feu nouveau. Un élan nouveau. Nous ne voulons pas de religion. Nous voulons, Seigneur, toi, Jésus. La seule manière de t'avoir, Jésus, c'est la repentance. C'est la sanctification. C'est le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle l'intelligence qui est en nous. Renouvelle l'esprit qui est en nous. Donne-nous la joie du salut. Un esprit nouveau, Seigneur. Un esprit nouveau pour tes enfants. Pour ceux qui sont ici, Seigneur Jésus, qui ont cet esprit de plaisir, Seigneur, c'est toi qui libères. C'est toi qui as sorti plusieurs personnes. Tu as sorti Zachée qui aimait son argent. Oh, Jésus! Tu as sorti la fille de Jairus de sa maladie. Seigneur, toi, tu as sorti Matthieu. Matthieu de son monde de collecteur d'impôts. Tu as sorti Pierre de ses doutes et de sa peur. Ce soir, il y a des Pierres, il y a des Matthieu, il y a des Zachée dans ce lieu. Oh Seigneur, touche ton peuple encore une fois. Détruis les murs des Hérodes qui sont ici, Seigneur. Afin qu'ils puissent voir, Seigneur, la grandeur de ton pouvoir. On te demande, Seigneur, de te manifester. Manifeste-toi dans les vies. Nous chassons tout esprit qui tient à retenir ton peuple captif. Nous demandons à l'Esprit de l'Éternel de prendre le contrôle totalement dans les vies des gens qui sont ici ce soir. Tous ceux qui nous regardent par le truchement de l'Internet aussi. Tous ceux qui vont écouter ce message. Je te demande, Seigneur, de pouvoir renouveler l'Esprit qui est en eux. Ceux qui ont l'esprit de religion, Seigneur Jésus, brise les chaînes. Brise les chaînes. Seigneur, nous sommes ici pour la vérité. Nous sommes ici afin que tu nous touches une nouvelle fois. Et on te remercie parce que tu es vivant. Répétez après moi, Père Céleste, merci pour le sacrifice de la croix. En toi, nous avons une vie nouvelle et nous pouvons être transformés pour transformer. Amen.
Vous venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Ennis à Ottawa, au Canada. Notre code postal est le K1B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.